Alors, comme nous l'a dit ce matin le Père Cantalamessa, la liturgie, l'Eucharistie est une prière communautaire, non spontanée. Et donc nous allons poursuivre la découverte des rites de la messe que nous recevons, dans lesquels nous entrons dans une certaine obéissance du cœur. On parlait la dernière fois de cette obligation des commandements de l'Église, et notamment de ce commandement de l'Eucharistie dominicale. On m'a fait remarquer à juste titre que c'était une obligation d'amour, non pas une obligation de peur d'être rejeté par Dieu si je n'obéis pas. C'est une obligation d'amour. C'est quelqu'un qui m'aime et qui me donne la manière de l'aimer, de lui répondre. Et c'est vrai aussi dans les rites que nous vivons dans l'Eucharistie, nous sommes invités à les aimer, à les découvrir, à les respecter. Derrière, il y a évidemment un souci d'unité de l'Église. La manière dont l'Église prie est la même dans tous les coins du monde, quelle que soit la langue. Et c'est une manière de vivre concrètement l'universalité de l'Église. Nous n'avons pas la même langue, mais nous avons les mêmes rites. Et une autre raison pour laquelle nous obéissons, nous cherchons à obéir amoureusement à ces rites, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte dans la vie spirituelle que l'on ne sait pas comment prier, que l'on est sec devant Dieu, que toute prière qu'on essaye de faire, on peut passer par des moments comme ça, on n'a plus rien, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quelle est la bonne prière. Et alors on est entré dans la liturgie, c'est accueillir les paroles d'un autre, les paroles de l'Église qui va me dire comment prier. Je ne sais pas comment m'adresser à Dieu, et j'accueille les paroles qui me sont données de la part de Dieu pour lui parler. Les formules ont changé au cours des temps. Certains d'entre vous ont vécu ce passage après le Concile Vatican II, et certains en ont déduit qu'on pouvait changer du coup la liturgie, qui n'avait pas changé pendant des siècles, qu'on pouvait la changer comme ça puisque le Concile l'avait fait. Alors quand la liturgie a été renouvelée, elle a été faite dans des conditions très précises. Le message n'était pas de dire allez-y, changez la liturgie au gré de vos envies. C'était de dire la liturgie est vivante. Et donc, celle que nous vivons aujourd'hui peut-être changera encore dans un siècle ou moins, peu importe. Mais nous étions invités à l'accueillir, cette Église que Jésus a fondée pour nous aider, pour nous donner les sacrements du salut. Alors, je vous propose de reprendre le petit schéma que je vous avais donné. Si certains n'étaient pas là et voudraient l'avoir, j'ai encore deux ou trois photocopies. Nous avions juste commencé le schéma. Vous vous rappelez, hein, la célébration retrouve un rythme ternaire de préparation, donc comme une montagne que l'on gravit, d'un sommet que l'on atteint et duquel on contemple, et puis une descente qui se fait progressive. Et ce schéma se reproduit à plusieurs reprises. Alors là, nous nous étions arrêtés au signe de croix. Donc on était dans la préparation tout à gauche. Voilà. Alors l'étape d'après, une fois que nous avons fait le signe de croix, le prêtre peut introduire à la liturgie du jour et va inviter à confesser ses péchés. Il y a quatre formules pour demander pardon. Je vous le dis, si vous êtes liturge dans votre paroisse ou si vous animez les chants, ça peut être bien d'avoir une idée synthétique de cela. Il y a quatre manières. Alors soit on dit le confiteor, hein, je confesse à Dieu avec le kyrie. Et entre le confiteor et le kyrie, il y a une formule d'absolution. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Alors, un petit mot sur cette formule d'absolution. C'est une formule supplicative, que Dieu nous fasse miséricorde, et non pas une formule